Voilà, vous êtes bien courageux d'être venu, à la fois parce que le temps n'est pas très beau, et puis la matière n'est pas très simple, mais voilà. Vous vous souvenez peut-être que la fois passée, j'ai apporté plusieurs éléments qu'on ne peut pas reprendre, mais notamment on a parlé des dinosaures, et les points forts des dinosaures, c'était de dire qu'on découvrait maintenant du sang dans des ossements de dinosaures, et pas seulement d'un, mais vraiment beaucoup. Et par là même, ça donnait l'occasion de travailler avec la radiométrie du carbone 14, qui n'est possible que pour quelques milliers d'années, alors que pour les millions d'années, ils utilisent d'autres moyens de radiométrie basés sur la radioactivité des éléments. Mais donc, pour tous ces ossements où il y a de l'hémoglobine, des tissus mous, ils trouvent toutes sortes de choses, et pas seulement une. Ils trouvent des dates actuellement qui vont de 20 000 à 30, 40 000 ans, ce qui est totalement à l'opposé des 60 millions d'années qu'on continue de dire partout. Ensuite, je vous ai montré aussi le Mont Saint-Hélène, n'est-ce pas, où, ce volcan qui a explosé en 1980 et qui a creusé un canyon qui donne, je dirais, toutes les indications de millions et millions d'années, sauf qu'on sait que ça date de 1980. Et notamment les mesures radiométriques aussi donnent des millions d'années, alors que les scientifiques sont clairs normalement pour dire quand il y a l'explosion d'un volcan, on commence la datation, la radiométrie au temps zéro, parce que ça vient de sortir de terre. Et donc là, et alors ils trouvent, ils ont analysé, je vous ai peut-être montré cela aussi, tous les volcans connus depuis, on va dire, 1000 à 2000 ans, y compris l'Etna, ils font des mesures sur le terrain et ils trouvent des millions d'années, alors qu'on sait très bien qu'on a pu dater l'explosion de ces volcans. Ensuite, je vous ai montré quelque chose du flagelle bactérien déjà, ou pas encore? Ah, peut-être pas. Ça, il faudra que je vous montre ce soir. Mais on a parlé du déluge aussi, n'est-ce pas? Et donc, on va revenir, parce que je n'ai pas pu la fois passée, vous donner quelques très courts clips que je prends une minute par-ci, une minute par-là. En fait, cet automne, nous avons eu le privilège, le groupe de scientifiques dont je fais partie, d'avoir un géologue de renommée mondiale, Guy Leduc, qui, lui, donne des choses, fait des recherches dans le monde, que dans le consensus d'autres géologues, en particulier non chrétiens. Donc des choses incontestables. Alors, ce qui se passe des fois, c'est que les géologues, ils doivent courber la chine en disant « Oui, oui, mais ça c'est local. C'est un phénomène local, comme le Mont Saint-Hélène. » Sauf que ce que je vais vous montrer concerne finalement tout l'hémisphère nord de la planète. Donc on ne peut pas dire que c'est local. Ça veut dire que la thèse est la suivante, et tient tout à fait la route. Ça veut dire que le déluge a été précédé de catastrophes gigantesques, effondrement des écluses célestes, et aussi ces fameuses fontaines souterraines, comme la Bible dit. Mais nous, quand on entend le mot fontaine, on voit la petite fontaine du coin qui coule gentiment, et puis cet été qui avait un peu de peine. Mais il faut vous dire que c'est des quantités phénoménales d'eau, mais aussi de phénomènes tectoniques, aussi de lave, etc. Et que finalement, les océans, qui à l'époque, pas de problème, bienvenue.
Pardon.
Pas de problème, il y a encore de la place. Prenez le temps de vous installer. Il y a de la place encore ici, si vous voulez. C'est peut-être un peu handicapé là, mais enfin.
Oui.
Ça va aller?
Je suis à côté de vous un moment.
Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, donc ce déluge, il faut vous dire qu'il a commencé par des phénomènes de grands cataclysmes, mais surtout après. Pour l'évacuation de l'eau, je vous l'ai déjà dit, si l'eau avait dû s'évacuer que par le soleil, on aura encore les pieds dans l'eau quelque part, n'est-ce pas? Donc, les océans avant le déluge, et ça, les scientifiques sont toujours d'accord avec les données, sauf que mettre des centaines de millions d'années là où nous, on n'en met vraiment pas beaucoup. Mais donc, ils reconnaissent qu'il y a eu un temps où les océans étaient très peu profonds. Et ça veut dire que après le déluge, il a fallu que les océans se creusent subitement, très profondément, pour évacuer l'eau du déluge, n'est-ce pas? Parce que ça a duré 150 jours, les eaux étaient grosses, mais après, il n'a pas fallu des centaines d'années pour que cette eau se résorbe. Donc, affaissement des océans, mais aussi les plaques tectoniques, probablement d'un continent qui était peut-être unique, ça on dit qu'il y avait un continent unique, mais de nouveau, il faut des centaines de millions d'années, des milliards d'années, dans la thèse évolutionniste, pour que ces plaques tectoniques s'éloignent. Or, je vous donnerai, j'en parle maintenant tout de suite, mais la revue Nature, qui est la plus grande revue scientifique du monde, vient de publier un article, et là je me dis, ça fait partie de ces concessions dont ils sont parfois obligés de reconnaître des choses, avec des conclusions qui sont souvent fausses. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que sous le pôle sud, sous 3 à 4 km de glace, c'est énorme, vous savez, 3 à 4 km de glace. Vous voyez, ça veut dire que, on le verra tout à l'heure, il y a des montagnes qui se sont formées à la fin du déluge, sous justement 3 à 4 km de glace. Vous voyez, une montagne qui fait 4000 mètres, c'est déjà beaucoup, à partir du plancher des continents, du plancher granitique. Or, ils reconnaissent que sous ces glaces, il y a des fossiles de palmiers et des fossiles de dinosaures. Maintenant, la grande question à résoudre, ça veut dire que comment expliquer que le pôle sud ait été un jour très chaud, puisqu'il abritait plus. Il faut qu'ils aillent plus loin, parce qu'on sait qu'il y a aussi des fossiles de lions, d'hippopotames, donc d'une faune, on va dire, équatoriale. Ça veut dire qu'il n'y a que deux thèses. Soit il faut admettre, mais c'est dur à expliquer, pourquoi est-ce que le pôle sud aurait été un jour, quel était le phénomène du soleil pour qu'il y ait eu un climat tropical. Et l'autre thèse, ils y viendront peut-être un jour, c'est ce qu'on appelle les hydroplaques. C'est-à-dire que, et c'est des thèses qui tiennent de plus en plus la route, ça veut dire qu'à un moment donné, le continent probablement unique, où les plaques tectoniques des continents étaient très proches les unes des autres, et tout cela a été bouleversé, soulevé. Il a fallu que ces plaques voyagent à des centaines de kilomètres heure pour ne pas se fracasser avant d'arriver à destination. Et cela expliquerait comment on trouve maintenant, sous le pôle sud, des éléments qui viennent de la forêt tropicale. Ce qu'il n'explique pas en disant « oui, mais cette plaque a dérivé pendant 2 ou 3 ou 400 ou 500 millions d'années ». Or, ce n'est pas possible que des palmiers restent à l'état de fossile et des animaux à l'état de fossile en dérivant pendant des dizaines et centaines de millions d'années. Ça ne tient pas la route, c'est le cas de le dire. Et d'autre part, le phénomène pour qu'il y ait fossilisation est un processus extrêmement complexe qui est reconnu par les scientifiques. Il faut un enfouissement extrêmement rapide sous des couches énormes de terre, de boue, qu'il n'y ait pas d'air et qu'il y ait des pressions phénoménales, parce que dès qu'il y a de l'air, ça veut dire que tout est détruit avant que ça soit fossilisé. Et un des étonnements dans ce sens-là, c'est que le Titanic, où il y a eu 1200 morts, ils ont retrouvé, je crois vous l'avoir dit, des bouts de souliers, ils ont retrouvé de la vaisselle, ils ont retrouvé plein de choses, mais pas une seule trace d'être humain. Pas une seule trace. Et pourtant, ils ont fouillé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le phénomène d'enfouissement sous des matériaux de terre et de glaise, de toutes ces choses, sans air, avec compression, pour qu'il y ait fossilisation. Ça, c'est la preuve que les bactéries, les requins, les poissons, tout ce monde-là, ils ont fait leur travail, Ça veut dire qu'il ne reste rien du tout, même pas des ossements, vous voyez. Alors, quand on... Des revues comme Nature, qui sont obligées de reconnaître ce qu'il y a sous le pôle sud, ils ne peuvent pas admettre, au fond, une autre théorie que la dérive des continents sur des centaines de millions d'années. Et voilà. Alors, ce que je vais vous montrer ici, de petits clips, vient de ce Guy Leduc, qui est un chrétien engagé, qui fait partie de ces géologues au niveau mondial, et la thèse est la suivante, c'est que ces océans, à la fin du déluge, étaient quand même très chauds, puisqu'il y avait eu toute cette matière qui était sortie de la Terre, et ça veut dire qu'il y a eu par la suite des précipitations gigantesques, parce qu'il y a eu un changement de climat. Ça c'est clair, la Bible le dit. La Bible dit que l'arc-en-ciel n'existait pas avant le déluge. Ça veut dire que la pluie n'existait pas avant le déluge. C'était jusqu'au déluge, c'était le système qui est décrit par la Genèse, c'est-à-dire que c'était une vapeur d'eau qui montait de ces fameuses fontaines souterraines, même si aujourd'hui il reste encore des océans souterrains reconnus par tout le monde et des quantités phénoménales d'eau sous la terre. Il n'y a pas que de la lave et des roches. Et donc, il y a eu une évaporation gigantesque due à un changement de climat et donc des précipitations de neige aussi gigantesques sur des dizaines d'années probablement. Et ça veut dire qu'il y a eu cette fameuse glaciation qui est reconnue. La dernière glaciation reconnue par les scientifiques remonte à quelques milliers d'années avant Jésus. Où il y a eu de la glace jusqu'à Genève, jusqu'à Lyon. Là, il y en a des traces très claires. Sauf que l'origine de cette gigantesque glaciation, c'est de nouveau, il faut mettre des millions d'années avec des courbes de réchauffement climatique et de refroidissement climatique, alors que la thèse de Guy Leduc et de bien d'autres géologues disent non, il y a eu là une glaciation phénoménale, mais d'une épaisseur aussi gigantesque, de 3 à 4 km. Et c'est la fonte de ce glacier qui a modelé une grande partie du nord, de l'hémisphère nord de la Terre. Et il trouve ses traces partout, en particulier dans tout le nord des États-Unis, donc ce n'est pas seulement quelques kilomètres, c'est des milliers de kilomètres. Il trouve cela en Europe aussi, il trouve cela en Asie, et il constate que ce qui s'est passé provient de courants d'eau d'une vitesse énorme, entre 800 parfois et 1000 km/h. Parce qu'un glacier qui fait 3 à 4 km de haut et qui commence vraiment à fondre, il y a des courants d'eau dessous qui sont sous une pression énorme, et cette eau, elle est évacuée avec des pressions et des vitesses impressionnantes, et il trouve sur le terrain les traces de cet écoulement gigantesque d'eau qui est reconnu maintenant parce que les traces sur le terrain granitique sont incontestables. Ça n'a pu être creusé que par des courants d'eau d'une grande catastrophe. Alors pour eux, ils disent, il y a eu une grande catastrophe, on est d'accord, mais je vous donnerai d'autres éléments aussi de cette catastrophe avec Velikovsky. Elle est récente, cette catastrophe. Donc, je vous passe ici quelques éléments qui vous montrent comment les géologues aujourd'hui sont d'accord pour reconnaître qu'il y a eu ces phénomènes qui ont modelé le terrain granitique. Alors, par-dessus, bien sûr, il y a souvent des alluvions, il y a souvent, bien sûr, la nature qui a repris un peu ses droits, mais il y a d'autres terrains actuels, notamment au nord des États-Unis, où là, ils voient les choses sans même creuser ou enlever des éléments qui seraient venus après. Alors, j'espère que ça fonctionnera. Là, il faut que je... Ah oui, j'ai une feuille ici. Je vais vous passer de 0 à 1 minute 40. J'espère que ça fonctionnera. Voilà, on va faire ça comme ça. On va mettre ça ici. Et puis, on va mettre ça ici. C'est le numéro 1, 2, 3. Voilà, alors, vous pourrez relever ces... Le titre de Géodoxa, si vous voulez voir une fois pendant vos vacances de Noël, l'entier des vidéos. Là, j'en passe, j'espère que... Voilà, alors... Alors, des fois, il y a des commentaires, des fois pas.
Il y a plus de 10 000 ans, d'immenses calottes glaciaires recouvraient le nord de l'Europe, la Suisse et en Amérique, tout le Canada et le nord des États-Unis. Oui, c'était l'époque glaciaire. Pour en comprendre l'histoire, nous avons étudié nos glaciers actuels. Pendant plus d'un siècle, géologues et glaciologues croyaient que ces grands glaciers, appelés Inlandsis, ont disparu progressivement et calmement. Mais à partir des années 60, des scientifiques commencent à soupçonner que les eaux de fonte glaciaire aient souvent déferlé en de gigantesques vagues, ravageant tout sur leur passage. Dans les décennies qui suivent, les géologues ne cesseront de dévoiler les cicatrices de ces catastrophes sur des territoires en Scandinavie, dans les îles britanniques, en Suisse, en Sibérie, dans les monts Altaï, dans l'Himalaya et en Alaska. On croit même que la Manche fut creusée par un cataclysme. Cette interprétation de phénomènes régionaux fait maintenant consensus. Et voilà que dans les années 80, des géologues canadiens lancent une nouvelle controverse. Selon eux, les paysages glaciers portent les marques de catastrophes de plus grande ampleur qui se mesurent à l'échelle continentale. Plusieurs géologues d'autres pays se rallient maintenant à cette théorie. La communauté scientifique se divise. Nous vous invitons à plonger nos regards au cœur de la controverse.
J'avance un tout petit bout. Voilà. Alors, on va entendre Guy Leduc.
On sait depuis longtemps
que
l'eau des fonds des glaciers a causé des catastrophes.
Ça, c'est faux.
L'un des meilleurs exemples, c'était Chanelet-Scabland. Ça, c'est dans l'État du Washington, aux États-Unis. Il y avait Harlan Bretz qui faisait la cartographie dans les années 30. Et ses conclusions, c'était que, justement, le paysage avait été martelé par une forme de gros déluge. Et ça n'a pas été sans controverse. La controverse a duré des années. On croit maintenant que la Manche a été creusée par une catastrophe, genre déluge. Ces déluges peuvent être locales ou régionales et c'est plus nécessairement controversé. Il y a quand même une controverse qui persiste, c'est l'idée que les eaux de fonte de glaciers auraient pu être assez gigantesques pour causer une catastrophe à l'échelle, disons, continentale ou presque.
Avant de se plonger au cœur de la controverse, penchons nos regards sur les savoirs qui font consensus. Et pour cela, nous allons apprendre à distinguer entre les...
Je vais ici... Voilà. Alors, voyez, ils ont modélisé à partir de ce qu'ils connaissent des glaciers alpins,
les phénomènes sont différents. Très différents des glaciers continentaux. Ils sont de plus petite dimension et ils s'écoulent par gravité le long d'une pente. Toutefois, ils ont beaucoup aidé à comprendre les immenses glaciers de l'âge de glace. Les Inlandsis s'avancent sur leur périphérie en s'affaissant sous leur propre poids.
Donc ça, c'est le glacier qui a subi le déluge, donc gigantesque au niveau mondial. Donc là, ils sont dans le nord de l'Amérique, mais c'est sur
la glace
en elle-même
n'a aucun pouvoir abrasif. Sa dureté est tellement faible qu'elle ne pourrait même pas rayer le roc. Sous l'action de gel et dégel successifs, le socle rocheux libère de gros cailloux qui s'incrustent dans la glace. En d'autres mots, le glacier se fait des dents et acquiert ainsi un important pouvoir abrasif. C'est ainsi que la glace se refait constamment de nouvelles dents pour mordre davantage le roc à sa base. Ces débris vont être charriés par l'eau et la glace.
Donc là, on voit la création de moraines gigantesques
glaciaires
qui ont pu donner par érosion par la suite des montagnes.
Lorsqu'un glacier fond dans sa totalité, on peut apercevoir toute une variété de dépôts de moraines. Ici, je n'en mentionnerai que deux sortes. La moraine frontale, c'est l'effet bulle de zèvres qui s'exerce sur le front du glacier, et la moraine de fond formée sous le glacier. Il en existe d'autres types, comme les moraines latérales et médianes, plus spécifiques aux glaciers alpins. Au Canada, les anciens glaciers ont transporté d'énormes blocs sur des milliers de kilomètres.
Un autre.
On appelle ces roches blocs erratiques.
Donc, on voit déjà là que ce qu'ils trouvent, ce qu'ils ont modélisé dans la fente de ce glacier gigantesque, correspond à ce qu'ils trouvent sur le terrain. Donc, c'est à partir du terrain, reconnu par les géologues, qu'ils ont pu modéliser des choses. Et je vais vous montrer encore deux, trois éléments. Voilà, on va repartir ici. Et là, ce sera de 3, 10 et 5 mètres. Voilà. Alors, voilà. Et ça, c'est la formation des montagnes. Voilà. 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 Là, ils vont vous montrer comment les montagnes. Là, ça paraît d'être une taupinière, voyez. Il faut vous dire que c'est des épaisseurs de glace de 3 à 4 km de haut. Donc, ça a généré des montagnes dans l'hémisphère nord. Ce n'est pas toutes les montagnes du monde, ce n'est pas l'Himalaya non plus. Il y a eu d'autres phénomènes, mais par contre, c'est aussi gigantesque. La formation ici, donc c'est entre 3-10. Voilà, on va venir ici. Voilà. Toute la soirée à ça, hein, rassurez-vous. Mais je pense qu'à un moment donné, on est marqué aussi par des choses comme celle-là, d'autant plus qu'elles sont reconnues au niveau mondial. Donc c'est des choses. Guy Leduc, lui, il ne publie rien, il ne met rien sur à la connaissance du grand public sans que ça soit clairement attesté par la communauté géologique. Là où ils ont de la peine encore, c'est de reconnaître qu'il y a eu une seule grande catastrophe. La Bible nous le dit, le déluge, et ils ont encore de la peine à étendre ça sur vraiment tout l'hémisphère nord, alors que ça concerne déjà des milliers de kilomètres, voyez. Donc c'est pas seulement un petit bout de terrain. Mais là, ils ont fait des modèles aussi hydrauliques très, très intéressants. Là, c'est le numéro 3. Geodoxa 2. Voilà, on va y arriver. Voilà, Geodoxa 2. C'est celui-là. Et puis, on va le prendre en 30 secondes et une 50. Voilà. Alors. Voilà. Vous voyez, donc, on va voir la... comment est-ce qu'ils expliquent la formation de cela, vous voyez. Donc, toujours des vitesses entre 800 et 1000 km/h. Vous voyez, par exemple, les marmites. On nous dit toujours qu'il faut des millions d'années dans les gorges gazeuses. Mais c'est pas vrai. Elles peuvent se creuser extrêmement rapidement grâce à des pressions et des vitesses énormes. Et ils voient des tels phénomènes quand il y a de grandes inondations. Même en France, il y a des choses qui se creusent, même dans la roche, en très peu de temps. Donc il y a beaucoup de pression. Et des cailloux qui tombent. Très grande vitesse, ça peut poser des éléments très vite. Voyez donc, ils ont pu identifier tous les courants, comment les choses se sont formées. Ils appellent ça des vortex. Voilà, ils trouvent tout cela sur le terrain. Je vous en montre un dernier et après on passe plus loin. Le dernier, c'est 3 de 3 à partir de 2 minutes. Là. Ah. Tant pis, si ça ne marche pas, on va passer plus loin. Si celui-là ne marche pas. Voilà, tant pis. Alors, je vais reprendre maintenant ce document ici, où nous en étions restés. Voilà. Je vous avais montré, n'est-ce pas, quelque chose de l'arche, vous vous souvenez? Voilà. Donc là, je vous avais montré aussi, et ça c'est quelque chose de fondamental, il y a le monde ancien, avant le déluge, il y a le monde actuel que les géologues peuvent contrôler, n'est-ce pas? Ah oui, on peut peut-être remettre la lumière, si vous voulez. Voilà. Et donc, ce Guy Leduc est très clair pour dire tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, toutes les montagnes qu'on voit aujourd'hui sont des montagnes post-diluviennes, avec une érosion depuis le déluge. Ça veut dire qu'il y a une érosion qui continue dans nos Alpes, mais il découvre aussi des plateaux rocheux extrêmement hauts, de jusqu'à 2, 3, 4 000 mètres de haut, qui ont été littéralement soulevés depuis le plancher, et un plancher granitique, lors de ces gigantesques soulèvements des plaques. Ils trouvent tous ces éléments dans le monde. Donc, aujourd'hui, les géologues étudient le monde d'aujourd'hui, selon la Bible. Et puis, on le sait, il y aura un monde à venir. Alors, on va passer. On a vu aussi, n'est-ce pas, que Moïse, on a vu ça, ensemble, oui.
Non. Mais déjà le diapo d'avant, non, je crois pas.
Ah, d'accord.
Le monde ancien, Pierre.
Oui, c'est ça. Alors, on va pas lire tous les textes, mais il faut quand même savoir que c'est contesté en théologie libérale, mais c'est bien Moïse.
Ah, oui, ça, on a vu.
Si, on a vu. On a vu, n'est-ce pas?
Ça, oui,
voilà.
Oui,
alors,
oui,
on passe. Voilà. Donc, on a vu Josué, Paul, les Actes. On a vu ce monsieur Kenneth Kitchen. On a vu aussi tout ça, on l'a vu. Voilà, on a vu tout ça aussi. Guiberto, je vous en ai parlé. Les datations, vous voyez, de l'Etna, etc., tout ça, voilà. Maintenant, on le reverra peut-être après, mais vous voyez, vous avez des scientifiques chrétiens qui sont tous professeurs d'université et qui disent pourquoi le monde a dû être créé très rapidement. Vous voyez, c'est une autre approche que celle qu'on vient de voir avec le déluge, mais, disent-ils, tout doit dépendre de tout. Et on le dit de plus en plus, n'est-ce pas? Si les abeilles meurent, il n'y a plus d'arbres fruitiers. Il faudra trouver d'autres systèmes de pollinisation. Mais ce n'est pas que les abeilles, c'est l'ensemble de la création, même, je dirais, de notre digestion, de notre fonctionnement. On se rend compte qu'on a, besoin de tout. Les animaux ont besoin d'herbes, nous, on a besoin de légumes, on a besoin de fruits, on a besoin de tous ces éléments. Donc, eux disent scientifiquement pourquoi il a fallu que tout soit créé rapidement. Maintenant, faut-il que ce soit des hommes comme Dominique Tasson, un catholique, qui, lui, est un homme de science, mais qui nous dit clairement pourquoi la Bible est vraie. Des fois, je suis un peu jaloux de certains catholiques, alors qu'on a des fois des protestants bantins qui sont évolutionnistes, parfois même jusque dans le monde évangélique. Et il a écrit un résumé de sa thèse principale, « L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi ». Je peux recommander ce livre pour quelqu'un qui aimerait creuser un peu, parce qu'il n'est pas trop difficile à lire et il est clair comme de l'eau tranchée. Et il se permet d'attaquer le Vatican en disant ceux qui font partie de la branche scientifique au Vatican, il n'y en a pas un qui croit en Dieu. Donc ils sont évolutionnistes, mais ils dénoncent tout cela, hein. Il a un courage fou, voilà. Et des livres, vous voyez par exemple aussi Thomas Le Peltier, parce qu'on va faire un petit peu de philosophie, hein, je vous l'ai dit, pas trop compliqué, mais Thomas Le Peltier dit, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Mais fichez la paix aux créationnistes, c'est des scientifiques, arrêtez de dire que, parce qu'on dit toujours que les créationnistes ne sont pas scientifiques, voyez, mais que dire, et puis on en verra d'autres, mais déjà d'un Guy Leduc et de tant d'autres. Donc Thomas Le Peltier dit, ben, écoutez, on peut être ne pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais arrêtez de dire que ce ne sont pas des scientifiques ou des anti-scientistes. Maintenant, voilà, on va se poser quelques questions. Pour toi, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Nous, ça nous paraît stupide, n'est-ce pas, comme question, mais dites-vous quand même que les philosophes, à travers tous les temps, se pose des questions, parce que ça veut dire, puisqu'on est là, ça veut dire que la matière existe. Bon, si la matière existe, est-ce qu'il y a un créateur? Ou est-ce que la matière est éternelle? Vous comprenez, c'est quand même un drôle de problème. Donc ça veut dire qu'on est là. Bon, et puis en plus on est vivant, donc il faut encore expliquer la vie. On a vu ça la fois passée, où expliquer la vie, c'est un tel mystère que certains scientifiques disent, c'est arrivé qu'une seule fois et c'est un miracle. C'est pour ça qu'on la cherche ailleurs. Donc, Leibniz a posé cette question, mais en fait, elle est posée depuis tous les temps. Vous voyez, on a au fond deux grandes catégories de philosophes au travers des siècles. Vous avez Socrate, dont on parle encore, qui n'a pas écrit, mais c'est Platon qui a écrit tout ce que le maître Socrate a dit. Aristote, Thomas d'Aquin, voilà Alors, Thomas d'Aquin était chrétien. Mais qu'il s'agisse de Socrate, Platon et Aristote, ils ont tous été pour dire qu'il y avait un créateur. Ça, c'était très clair pour eux. Alors, on dit même que Platon, Aristote étaient extrêmement proches de la foi chrétienne, sauf qu'ils vivaient avant Jésus, et qu'ils ne connaissaient pas forcément tout le monde judaïque, mais ce n'est pas du hasard si Thomas d'Aquin, par exemple, est un disciple d'Aristote. Alors, on ne va pas plancher sur les différences entre Platon et Aristote, mais sachez que c'est tout un courant philosophique qui dure encore aujourd'hui et qui, au fond, Platon était plus spiritualiste, on pourrait dire. Lui, il croyait vraiment à des esprits créateurs. Aristote était plus cartésien, on pourrait dire, mais admettait quand même l'idée d'un créateur. Maintenant, à l'opposé, vous avez un Démocrite qui, lui, pose, vous voyez, déjà dans les années 400 avant Jésus, lui, il dit, il n'y a que de la matière. Et c'est lui, probablement, quand on dit lui, vous savez, du point de vue de l'histoire, mais enfin, il semble que ce serait lui qui ait nommé la première fois les particules infimes atomes. Et comment est-ce qu'on a trouvé qu'il y avait des atomes? C'est pas si compliqué que ça, dans un sens. Il suffit de mettre une goutte d'huile sur un étang. Et votre goutte d'huile, vous en connaissez la capacité, n'est-ce pas, par exemple, mettez 1 cm3. Et puis, vous mesurez une énorme tâche. Donc, comme on connaît la surface et qu'on connaît le volume, on peut mesurer l'épaisseur. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que la matière devait être tellement petite qu'ils l'ont baptisée atome. Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut plus diviser, atomos en grec. Et donc, à partir de là, Démocrite et tous ceux qui ont suivi dans ce courant philosophique-là tiennent mordicus au fait que tout n'est que matière et que les atomes tombaient, vous voyez, tombaient depuis l'éternité. Parce qu'il faut bien, qu'ils arrivent quelque part, puisqu'ils sont là, puisqu'on est là. Donc, ils disent, de toute éternité, les atomes tombaient et de temps en temps, il y a eu des sortes de vibrations qu'on fait, qui se sont mis ensemble. C'est donc les particules, oui, il ne parlait pas encore d'électrons, de neutrons et tout, mais les atomes se sont groupés ensemble pour créer des arbres, des animaux, et puis finalement les humains. Ça, c'est la thèse du matérialisme. Maintenant, Épicure, lui, a repris ça en disant, s'il y a des dieux, ils n'interviennent jamais dans la nature. On retrouve ça tout le temps. Lucrèce, détruit la crainte des dieux, combat l'immortalité de l'âme, affranchit les hommes des chaînes de la religion. Parce que bien sûr, vous voyez, en ce temps-là, il y avait déjà le judaïsme, il y avait tout le monde grec avec leurs dieux, leurs divinités, leur mythologie, etc. Donc là, je prends... Vous voyez, René Descartes est plus connu, bien sûr, lui qui dit « Oui, Dieu a créé l'univers en une seule fois, mais il crée en fait deux choses dont on vit encore aujourd'hui, c'est la séparation entre le corps et l'âme. » Et ça va très loin, ça va jusque dans la médecine actuelle, béni soit Dieu, hein, pour les médecins, les hôpitaux, on est d'accord, mais on traite le corps d'une manière scientifique, et puis l'âme, c'est pour les psychologues, à l'époque c'était pour les prêtres, et ensuite les pasteurs, aujourd'hui c'est pour les psychiatres et les psychologues, vous voyez. Et alors que la Bible est très claire, nous sommes corps, âme et esprit. Et donc ça veut dire qu'il y a une unité en nous, qui fait que, on le sait parfois, c'est possible qu'on soit malade d'une manière psychosomatique, puisqu'on dit que parfois, on va jusqu'à énoncer que le 70-75% des maladies auraient une origine psychosomatique. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas malade, mais ça veut dire qu'il y a déjà eu un dysfonctionnement. Par exemple, le fameux Français là, qui dirigeait l'OM, il a un cancer, et puis... cancer de l'estomac, donc il n'a jamais bu, jamais fumé vraiment, et puis qu'est-ce qu'on dit? Son médecin dit, oui, mais ça vient de quoi? Puis il dit, mais écoutez, on dit, j'arrive pas à digérer quelqu'un, lui, il a eu tellement d'ennuis, vous voyez, ou bien de ses expressions populaires, j'en ai plein le dos, etc. Ouais. Donc,
moi, j'ai eu ça ce week-end.
C'est vrai?
Non, c'est vrai. Non, j'ai dit ça, je suis sûr que c'est lié,
Voilà. Problème. Mais ça veut dire que Descartes, lui, il entre dans ce qu'on appelle le dualisme. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre le spirituel et le matériel. Et ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ce n'est pas biblique. Mais surtout, il dit les plantes et les animaux sont des machines. Alors tout le monde applaudit. Sauf que, par la suite, John Toland, lui, il va dire au fond... il élimine toute croyance, il veut fonder une nouvelle religion basée sur le matérialisme, son Dieu est l'univers, son culte s'adresse à la vérité, à la liberté, à la santé, sa liturgie socratique. Vous voyez, c'est 1670 et tout cela est repris aujourd'hui d'une manière incroyable. Et offrez là ici, voilà, l'homme-machine, vous voyez. Il déduit, c'est logique. Descartes, il dit... les animaux et les plantes, c'est des machines. Puis tout le monde applaudit. Puis un beau jour, on dit, oui, mais l'homme qui descend du singe, c'est aussi une machine. Voyez. Et voilà. Alors, voyez, ce qu'a écrit par exemple Darwin, le vrai matérialisme fait de Dieu une impossibilité, de la révélation une vue de l'esprit et de la vie future une absurdité. On ne cite pas souvent ça quand on parle de Darwin, vous voyez, et que la théorie de l'évolution aujourd'hui repose toujours sur ce que Darwin a dit, mais ça on ne va pas le citer. Voyez maintenant, par exemple, des livres que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de ma thèse de doctorat, mais « Matériaux philosophiques pour un matérialisme contemporain », c'est des énormes livres qui sont enseignés, lus dans nos facultés par beaucoup de monde. Et vous voyez, par exemple, « Histoire des philosophies matérialistes » d'un Charbonnat, « L'origine de la vie ne peut plus être abordée sérieusement sans la théorie de l'évolution », vous voyez. Et tout cela, il faut vous dire que c'est l'enseignement officiel dans nos écoles, parfois même dans nos petites classes et jusqu'à l'université. Ils vont dire, Pascal Charbonnat va dire, la philosophie n'a pas encore effectué sa révolution darwinienne. Pourquoi ? Parce que, en fait, je vais aller assez vite, mais la philosophie de Lénine est subordonnée à son combat politique. Et là, il y a quelque chose de très important. Ça veut dire que pour les matérialistes d'aujourd'hui, on parle même de matériologie, ça veut dire ceux qui excluent absolument tout esprit, absolument toute idée de Dieu. Ils sont fâchés parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer vraiment leurs idées pour tout le peuple. Ce qui fait que de temps en temps, il y a des publications de statistiques. Hélas, aux États-Unis, encore 60% de la population croit qu'il y a un Dieu créateur. Et ils deviennent fous, ces gens-là. Et ils disent, le seul qui avait vraiment compris le matérialisme, c'est Karl Marx. Parce que lui, il a mis en œuvre sa philosophie par la politique, et ça veut dire par la répression. Il y a un livre qui vient de s'écrire aujourd'hui, enfin ces jours, ils ont fait de la publicité sur l'histoire du goulag. C'est 60 millions de personnes qui ont été déportées. 60 millions de personnes. C'est quelque chose d'inimaginable. Parce qu'ils voulaient, par la philosophie du travail, mais par l'exclusion de toute religion, y compris l'islam, y compris le bouddhisme, tout ce que vous voulez, mais surtout le christianisme, comme par hasard, ils voulaient en finir avec cette idée d'un créateur. Mais pour cela, ils devaient l'imposer. Or, aujourd'hui, si on va un peu plus loin, je passe assez rapidement, mais vous avez sûrement entendu parler, alors là, par exemple, aussi dans un livre d'histoire de la philosophie, vous voyez, qui dit « L'avenir plus ou moins prochain de la religion, l'une de ses voies consiste à supprimer et à abolir entièrement toute religion et à transférer sa tâche à l'État, à la science et à l'art. » Et ça, c'est écrit dans les années 1910. Or, aujourd'hui, on a des politiciens qui veulent mettre ça vraiment en œuvre. Vous voyez, Vincent Peillon, qui a écrit un livre avant d'être nommé ministre. Avant d'être nommé ministre en France par François Hollande, ministre de l'Éducation, il a écrit un livre dont je vais vous lire quelques extraits. Il a dit, voilà, ce qui manque au socialisme pour s'accomplir comme la pensée des temps nouveaux, c'est une religion nouvelle, donc un nouveau dogme, un nouveau régime, un nouveau culte doivent surgir afin qu'une nouvelle société prenne la place de l'ancienne. La laïcité elle-même peut alors apparaître comme cette religion de la République recherchée depuis la Révolution. Et quand on parle laïcité en France, il y a deux laïcités. Il y a une laïcité avec laquelle on est d'accord, ça veut dire une séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est biblique, même si on espère qu'il y ait le maximum de croyants parmi les autorités, mais l'Église n'a pas à prendre la place de l'autorité, ça on est d'accord. Mais là, il y a une laïcité en France qui alors est pour rayer de la carte les Églises et la foi chrétienne en particulier. Et donc, il a écrit en toutes lettres, avant d'être nommé ministre, qu'il faut terrasser les Églises. Et il reprend toute cette idée de Karl Marx, n'est-ce pas ? Toute cette idée de dire, mais il faut agir. Toute église et toute orthodoxie. Vous voyez, il reprend Lénine, un dirigeant qui ne sépare pas le concept philosophique de son action politique, vous comprenez ? Il faut qu'il y ait l'action politique pour faire passer, en fait, la philosophie matérialiste. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que la philosophie matérialiste s'appuie fondamentalement sur Darwin. Vous comprenez ? Ça veut dire que pour eux, c'est la preuve que le monde, on sait maintenant comment le monde s'est fait, donc on n'a plus besoin de Dieu. N'ayant plus besoin de Dieu, on va essayer de rayer de la carte ces idées qui sont fausses, et ces idées qui sont fausses dès l'enfance. Donc, il dit, voilà, le but de la morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social et intellectuel. Le but de l'école républicaine a toujours été de produire un individu libre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez, on est à l'opposé de la parole de Dieu. Galates 1, 5, 1 qui nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Vous voyez. Et eux, ils veulent les mêmes choses. Ils veulent des dogmes, ils veulent... Or, il a été nommé, bien sûr, un temps ministre, et maintenant, il est en Europe, vous voyez, au niveau européen. Il a brigué, vous vous souvenez peut-être, il était en lice pour être président de la République, heureusement qu'il n'a pas été nommé, mais, par contre, il enseigne à l'université de Neuchâtel, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'il enseigne ici? Parce qu'il a dit, il y a quelque chose qui m'intéresse à Neuchâtel, c'est que c'est une république, et c'est différent des autres cantons. Et il y a un peu un esprit républicain ici, donc un petit peu rebelle quelque part, et ça l'intéresse. Donc il amène son poison ici, il a été accueilli franchement presque comme un prophète. Maintenant, je veux dire juste un mot de la résolution sur laquelle je travaille depuis plusieurs années dans un doctorat, qui a passé comme chat sur braise dans notre monde, bien sûr, sauf dans certains milieux, et on va en dire un mot aussi. Voilà ce que le Conseil de l'Europe a voté le 4 octobre 2007. Alors je prends que quelques extraits. Le créationnisme, et par créationnisme, il faut entendre pas seulement qui sont ceux des tenants d'une jeune terre, mais toute personne qui admet qu'il y a un créateur. Toute personne. Donc j'ai assez travaillé ces textes, les textes préparatoires, pour être totalement clair là-dessus, pas l'ombre d'une hésitation. Le créationnisme, si l'on y prend garde, peut être une menace pour les droits de l'homme, vous imaginez? Ça veut dire que les chrétiens qui croient catholiques, orthodoxes, en un Dieu créateur, sont une menace pour les droits de l'homme qui sont au cœur des préoccupations du Conseil de l'Europe. Si nous n'y prenons garde, les valeurs qui sont l'essence même du Conseil de l'Europe risquent d'être directement menacées par les intégristes du créationnisme. Il est du rôle des parlementaires du Conseil de l'Europe de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Si je vous faisais lire ces choses en dehors d'une conférence et que vous disais qui est menacé si j'enlève le mot créationnisme, ils ont peur de qui? Je suis sûr que vous diriez des djihadistes. Je suis sûr. Des terroristes? On nous prend pour des terroristes, vous imaginez? Et on nous met sur le dos des choses inimaginables. Or, l'affaire du canton de Vaud, qui remonte déjà à quelques années, mais qui est basée sur cette résolution, c'est qu'un parlementaire au Grand Conseil vaudois dit, écoutez, ça serait quand même le moment qu'on aille contrôler ce qui se dit dans les écoles chrétiennes. Alors ils sont allés contrôler les 4 ou 5 écoles chrétiennes qui sont en Suisse romande, et ils ont été déçus parce qu'ils ont vu qu'ils enseignaient bien sûr des thèses créationnistes, mais qu'ils enseignaient aussi le programme officiel de l'évolution. Et moi je suis pour cela, je suis pour qu'on mette les choses sur la table, sauf que le 100% des écoles en Europe ne veulent absolument pas parler des thèses créationnistes. Vous voyez, ce que je vous ai enseigné là, même ce soir, du géologue Guy Leduc, jamais ils vont montrer ça dans des écoles. Parce que dès qu'il y a une toute petite porte ouverte qui laisserait entendre qu'il y a un Dieu créateur, ils éliminent. Donc, dans les écoles vaudoises, ils n'ont pas peur de dire, voilà ce qu'enseignent les évolutionnistes, mais voilà aussi des scientifiques très sérieux qui nous disent pourquoi la Bible est sérieuse. Or, ils sont en train de réviser la loi. Vous voyez, enseigner le créationnisme ne sera plus admis, imaginez. Et c'est une conséquence directe de cette résolution 1580. Et voilà, donc il y a tout le processus ici. Vous voyez, par exemple, il existe un chant, peut-être vous l'avez déjà entendu, sur l'arche de Noé, et c'est sur la licorne. Vous avez déjà entendu, les enfants chantent ça dans les petites classes. Je ne sais pas si c'est encore par cœur, mais la jolie licorne. Voilà, je ne me souviens plus très bien. Mais c'est un chant populaire, très, très sympathique, qui dit au fond que Noé a oublié d'embarquer la licorne. Et puis que c'est depuis ce moment-là qu'il n'y a plus de licorne sur la terre. Donc c'est bien gentil, vous voyez. Eh bien, ils ont fait interdire aux enfants de chanter ce chant dans les écoles à Genève, vous comprenez ? Simplement parce que ça parlait de l'arche de Noé. Imaginez où on en est en Suisse, vous voyez. Et vous savez que maintenant, il est question d'enlever les croix partout, n'est-ce pas ? Sous l'oppression musulmane. En Angleterre, ils viennent de supprimer toute notion de Jésus dans les choses officielles, c'est-à-dire on n'a plus le droit de dire 1000 ans avant Jésus. Il faudra dire 1000 ans avant l'an zéro. Vous voyez, donc c'est inimaginable où nous sommes en train d'arriver. Souvenez-vous de l'histoire de la crèche de Noël à Neuchâtel, n'est-ce pas ? Tout ça, ce sont des conséquences à la fois du matérialisme philosophique, mais aussi, évidemment, des pressions énormes qui viennent du monde musulman, il faut oser le dire, et de politiciens qui courbent les chines devant eux. Voilà, par exemple, aussi un livre. Alors, il y a des musulmans qui sont créationnistes, parce que dans le Coran, il est question aussi d'un créateur. Or, il y a des musulmans qui dépendent de la bonne parole et qui ont écrit un livre aussi pour dire que c'est Dieu qui a créé. Et ils portaient ce livre comme on le fait nous des fois avec la Bible, hein. Soyons honnêtes, hein. On distribue aussi des Bibles, il y a des mouvements, moi je viens de le faire en Chine, des milliers de Bibles, eh bien ils ont fait interdire ce livre-là. Alors finalement, d'où venons-nous ? La Genèse est très claire, vous voyez. Bereshit bara Elohim bara shamayim et bara haaretz, ça veut dire au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, quand c'est qu'il a créé la matière dont on vient de parler, ça, Dieu le sait. Voilà. D'où vient Dieu ? Voilà la question. Alors, d'où vient la matière ? N'ayez pas peur quand quelqu'un vous dit, oui, votre Dieu, il vient d'où ? Et votre matière, elle vient d'où ? Alors, on part déjà sur un même plan. Moi, je dis que c'est Dieu qui a créé avec une intelligence exceptionnelle. Puis vous, vous dites que c'est la matière qui est intelligente et qui a tout créé. Ben, je dirais, déjà là, ça donne à réfléchir. Mais en tout cas, laissez-nous le droit de dire que nous croyons en un créateur. Puisque vous croyez que la matière est éternelle, eh bien, nous croyons en un Dieu éternel. Voilà. Donc il faut oser croiser le fer. Et ne pas courber les chines quand on dit, c'est vrai, d'où vient Dieu ? Ben, bon, il nous dira un jour, il est là, nous sommes là. Donc, puisque nous sommes là, ce n'est pas stupide de dire qu'il y a eu un créateur ou qu'il y a eu de la matière éternelle. Voilà. Or, trois fois, il a utilisé le verbe « bara » pour parler. Le verbe « bara » en hébreu veut dire littéralement « créer à partir de rien ». Et ce verbe est utilisé que pour la création de la matière. Au commencement, Dieu créa « bara », la vie qui apparaît dans l'eau, c'est vrai, pour commencer, là, voilà, c'est de nouveau bara, et pour l'être humain, c'est le mot bara, mais répété trois fois, vous voyez, comme s'il y avait le corps, l'âme et l'esprit, on pourrait dire les choses, mais c'est pas dans le texte biblique, corps, âme, esprit, mais il est répété trois fois le verbe bara. Donc là, ensuite, là, on l'a déjà vu une fois, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous en moi ? Maintenant, je vous dis un mot de M. John Sanford. M. John Sanford est l'inventeur de ce qu'on appelle le canon à gènes, c'est-à-dire c'est lui qui a inventé la machine moléculaire capable de modifier le génome des plantes, d'où les OGM. Vous direz, ben, il aurait mieux fait de rester au lit. Non, non, parce qu'il y a aussi des très bonnes choses qui se passent. Mais ça permet aussi maintenant des réparations génétiques de maladies orphelines, etc. Donc, il a inventé une machine qui s'appelle le canon à gènes. Il est mondialement connu. Il a une vingtaine de brevets en biologie au niveau mondial. Maintenant, si vous allez actuellement, vous tapez canon à ADN ou canon à gènes, vous ne voyez plus le nom de Monsieur Sanford. Ce qui est déjà grave, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on montre la machine sur Internet, mais on ne parle plus de son créateur. Pourquoi? Parce que, vous voyez là, si vous tapez Canongène, vous ne verrez plus le mot de... Il faut faire des recherches. Alors, il a écrit un livre, heureusement, qui va paraître en français. Mais il se trouve que M. Sanford s'est converti. Et dans sa conversion, ce n'est pas la conversion qui l'a amené à dire « je crois aux six jours de la création », c'est qu'il y croyait déjà avant, mais il n'a pas le courage de le dire. Comme biologiste, il est arrivé à la conclusion que l'évolutionnisme, c'était tout faux. Mais il était conscient que reconnaître un créateur, et reconnaître même la création selon l'écriture, allait tout simplement le sortir du circuit académique, ce qui est arrivé. Sauf qu'on ne peut pas lui enlever sa notoriété mondiale. Or, il a osé témoigner de sa conversion en Jésus-Christ, mais surtout, il a écrit aussi un livre pour montrer que génétiquement, on ne peut pas être vieux. Parce que le génome humain se dégrade. Ça veut dire que notre génome ne se répare pratiquement jamais. Sauf que sur des milliards de lettres qui constituent notre ADN, une lettre de différence, ça ne va pas avoir des conséquences. Sauf que de temps en temps, il y a de graves conséquences, vous le savez, des enfants qui naissent avec une malformation, etc. Mais vous le savez aussi qu'il y a des maladies génétiques qui se transmettent dans les familles. Mais ce n'est pas que dans les familles, c'est au niveau mondial aussi. Heureusement, pas toutes les maladies graves. Et en même temps, il y a à tout moment de nouvelles maladies qu'on appelle orphelines. Il y a clairement une dégénérescence du génome humain. Et M. Sanford montre qu'on ne peut pas remonter beaucoup plus loin que quelques milliers d'années avant Jésus pour, dans l'échelle du génome, avec un génome qui était parfait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont vécu des centaines d'années. Et on dit, oui, où est-ce que Caïn a trouvé sa femme? Mais il a dit, Caïn quitta le jardin d'Éden. Il est chassé, comme les autres. Et puis, après, la ligne suivante, il a dit, il trouva sa femme. Mais où est le problème de dire que c'est sa demi-sœur ou sa sœur? Il n'y a aucun problème. Abraham a épousé sa cousine. Ça veut dire que, je comprends pas les chrétiens qui, parce qu'ils butent sur ce verset, disent, oui, malheureux, où est-ce qu'il a trouvé sa femme? C'est la preuve qu'il y avait des êtres humains avant. Mais où est cette preuve? Quand la Bible dit clairement que les premiers êtres humains, c'est Adam et Ève. Point. Et pourquoi est-ce qu'on vient avec notre intelligence, malmenée aussi par la chute, pour dire non, alors non, c'est s'il a trouvé une épouse, c'est qu'il y avait une humanité qui existait déjà. Non, pas du tout. Alors, lui, il dit, Sanford, le darwinisme moderne est construit tout à fait fondamentalement sur ce que j'appelle l'axiome primaire. Vous voyez, l'axiome. C'est-à-dire, petite mutation génétique, triée par la sélection naturelle, et qui donne tout l'ensemble du vivant, depuis les bactéries, les plantes, les animaux, jusqu'aux êtres humains. Ça, c'est la théorie classique de Darwin, et la résolution 1580 sur laquelle je travaille repose entièrement sur le dogme darwinien. Il y a d'autres thèses qui ont été émises par des évolutionnistes, j'en ai parlé la fois passée, qui ne sont pas d'accord avec Darwin, mais qui sont quand même évolutionnistes. Si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de solution, puisqu'on est là. Donc, lui... Ah oui, on va changer.